Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. En général, l'humanité ignore pourquoi des malheurs s'abattent sur la terre. Dans sa parole, Dieu annonce que ces malheurs seraient la conséquence de la désobéissance aux lois divines. Dieu laisse à l'homme son libre arbitre. Il ne tient pas à en faire un robot. Il avertit l'homme, ensuite il s'écarte afin qu'il puisse faire son choix, et ce choix consiste à lui obéir ou à lui tourner le dos en refusant de se soumettre à lui. Satan, qui a ses apôtres, ses ministres, continue à séduire le monde en propageant l'idée que la loi est abolie. Tout comme Adam et Ève, l'homme préfère croire Satan plutôt que le Christ qui a affirmé qu'il ne disparaîtrait pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi. En plaçant sa confiance en Satan et en ses ministres, souvent sans même le savoir, l'homme ne se soucie plus des lois et des commandements. Il vit ainsi dans le péché, ce qui ne l'empêche pas de se tourner vers Dieu quand le malheur s'abat sur ses épaules. C'est alors qu'il blâme Dieu. Il le blâme de ne pas intervenir et il finit par se demander « Mais où donc est Dieu ?» Que se passa-t-il lorsque le peuple d'Israël se trouva devant le mont Sinaï ? Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les en pratique. » Ce passage est suivi par les 10 commandements. Remarquez que Dieu n'impose pas sa loi. Il ne force pas le peuple à les observer. Dieu ne force personne. D'ailleurs, il laisse à chacun la liberté d'agir et de choisir sa façon de vivre. Il se contente de montrer sa voie, la bonne façon de vivre, et ensuite, il laisse à chacun le soin de décider ce qu'il veut faire. Les 10 commandements ont été donnés. Jamais ils n'ont été imposés. L'homme est libre de les observer ou de les transgresser. Mais nous les transgressons, alors tôt ou tard, nous nous demandons « Mais où donc est Dieu ?» Si nous observons les commandements, nous aurons des mises à l'épreuve. Mais nous devons savoir que Dieu est avec celui qui lui obéit, comme il l'a été avec Abraham, Isaac, etc. Dieu nous teste. Il nous éprouve pour une raison précise. Dieu aide, il montre la voie, il guide, mais jamais il ne force. L'homme reste totalement libre de ses décisions. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève, avec Caïn, Abraham, Isaac. Jamais ils n'ont été forcés d'obéir. Ils avaient un choix et chacun d'eux l'a assumé. L'Éternel avait déclaré « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Doté de son esprit charnel, l'homme ne comprend pas ce que l'Éternel déclare. Il a besoin de l'Esprit de Dieu pour saisir la portée, l'importance de ce que nous venons de lire. Dieu est prêt à aider quiconque le cherche vraiment et est décidé à faire sa volonté. Mais jamais, au grand jamais, il ne forcera quelqu'un à faire ce qu'il demande. Lorsque Paul fut arrêté sur le chemin de Damas, le Seigneur lui a dit « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Il ne lui a pas dit « Il t'est impossible de regimber contre les aiguillons, contre ces longs bâtons munis d'une pointe métallique dont on se servait pour stimuler les bœufs. » Après s'être soumis à la volonté de Dieu, l'apôtre Paul se repentit et fut baptisé par Ananias. Ceci ne signifie pas qu'il échappa à toute autre épreuve, au contraire. Mais après avoir écrit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous sommes toujours joyeux », il a ajouté « Soyez toujours joyeux », car il savait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il persévéra jusqu'à la fin, ce qui lui a permis d'écrire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée ». Celui qui observe la volonté de Dieu peut être assuré que Dieu est proche de lui. Il n'a pas à se demander « Mais où donc est Dieu ?» Il est là, à ses côtés et fidèle à ses promesses. Il n'abandonne pas les siens, tout comme il n'abandonna pas Isaac, Josué et tant d'autres. L'homme a beaucoup de questions auxquelles il ne trouve pas les réponses, parce qu'il ne prend pas la peine de les chercher dans la parole de Dieu. L'homme a ses idées. Il croit détenir la vérité, mais il se trompe. S'il voulait s'appliquer à la chercher, il la trouverait. Le Christ n'a-t-il pas dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Celui qui pense détenir la vérité sans examiner les Écritures pour vérifier ses connaissances risque de faire fausse route. Chacun est persuadé de ne pas se tromper. L'erreur est pour le voisin, pour les autres religions. Hérode complota de détruire Jésus. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ceci est une intervention directe du Dieu Très-Haut. Pourquoi intervient-il lui-même? Parce que le moment n'est pas arrivé pour que Jésus meure. Il n'avait pas encore eu l'occasion d'accomplir sa mission, car il n'était encore qu'un enfant. Il avait donc besoin de la protection divine. Le Père le protégea comme un père protège son enfant. Néanmoins, plus tard, il laissera au Christ le soin de décider s'il veut aller ou non jusqu'au bout de son sacrifice pour devenir le sauveur de l'humanité. C'est ce que le Christ explique. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Que se passa-t-il lorsque Satan confronta le Christ? Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Où était le Père lorsque le tentateur arriva? L'épître de Paul aux Hébreux nous révèle que le Christ aurait pu faillir dans sa mission. Le Très-Haut, le Père n'était pas loin de lui, mais il le laissa maître de ses décisions sans intervenir. Que dit Jésus à Satan? Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le Père n'intervint pas avant la fin de l'épreuve, mais dès que Jésus eut fait le bon choix, il envoya ses anges pour le servir. Lorsqu'il fut arrêté, Jésus ne se demanda pas « Mais où donc est Dieu ?» Il ne se posa pas cette question pendant toutes les souffrances qu'il accepta de supporter, pas plus qu'au moment où on le clouait sur le bois. Cependant, un moment vint où Jésus aurait pu se poser la question. Ce moment nous est rapporté par l'apôtre Marc. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Éloï, Éloï, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il ne s'est pas demandé où donc est Dieu, car il savait qu'à ce moment-là, il portait sur lui tous les péchés de l'humanité et que ceux-ci mettaient une séparation entre son Père, le Très-Haut, et lui. Dieu l'avait abandonné parce que celui qui n'a point connu le péché, le Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, c'est-à-dire il a fait en sorte qu'il devienne le sacrifice expiatoire suprême, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'apôtre Pierre ajoute, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Le roi David avait prophétisé cet abandon en ces termes. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Parce qu'il ne peut rester en présence du péché. Dieu avait abandonné celui qui portait tous nos péchés. Il n'accordait plus à son Fils l'aide et le réconfort qu'il lui avait donné jusqu'alors, mais nous pouvons avoir la certitude que le Père n'était pas loin. Assez souvent, je reçois des lettres de personnes qui souhaitent l'intervention de Dieu dans leur vie, mais elles ne veulent pas faire leur part, elles ne veulent pas se soumettre à lui et vivre en conformité avec les Écritures. Vous tous qui m'écoutez ce matin, sachez que si vous voulez faire la volonté de Dieu, telle qu'elle est détaillée dans la Bible, alors vous ne devez pas vous demander « Mais où donc est Dieu ?» car il sera là, à vos côtés. Assurez-vous que les décisions que vous prenez sont basées non sur vos sens, sur ce que vous voyez, sur un choix personnel, mais sur la parole divine. L'apôtre Paul nous recommande de ne pas nous accrocher aux choses terrestres, ce qui n'est guère facile. Dieu est-il réel pour vous? Qu'est-ce qui est réel pour vous? Croyez-vous en ce que vous ne voyez pas? L'homme voudrait bénéficier des promesses divines, mais il refuse de faire sa part. Si nous obéissons à Dieu, il promet de nous guérir, de nous nourrir, de nous pardonner. L'apôtre Pierre dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Remarquez qu'une condition est attachée à cette promesse. Il faut s'humilier devant Dieu. Ne pas croire que l'on peut décider seul ce qui est bien et ce qui est mal. Adam et Ève ont pris cette décision et on connaît les conséquences de leur choix. Une autre promesse toujours offerte, avec condition, nous est donné par l'apôtre Jean. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. L'homme se dit prêt à obéir à son Créateur, mais il refuse d'observer ses ordres, ses commandements et ses lois. C'est cependant ce que Abraham a fait et il en a été béni. Souvenez-vous des trois amis de Daniel. Ils ne vivaient pas seulement par ce qu'ils voyaient, par ce qu'ils entendaient. Ils vivaient en se basant sur les promesses divines. Ils avaient une confiance absolue en Dieu. C'est la raison pour laquelle ils se sont opposés à leur roi, un véritable dictateur, car ils voulaient faire la volonté de Dieu et observer ses commandements. Lisez ce récit dans le troisième chapitre du livre de Daniel. Tous trois furent délivrés de la fournaise. David a écrit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas dans ses pensées, il ne le recherche pas, il ne cherche pas à lui être agréable, il se croit capable de reconnaître le bien du mal tout seul. Voilà pourquoi, plus le temps passe, plus Dieu devient irréel pour lui, mais que le malheur s'abatte sur ses épaules, alors comme beaucoup, il se demandera « Mais où donc est Dieu ?» Vous qui m'écoutez ce matin, êtes-vous certain que Dieu est vraiment réel pour vous ?